Bonsoir à tous. L'offensive russe a repris sur Mariupol. Le cessez-le-feu qui devait permettre l'évacuation des civils n'a pas tenu. Moscou continue de bombarder cette ville du sud-est de l'Ukraine. Nous entendrons dans un instant le maire adjoint de Mariupol. La guerre en Ukraine entraîne une vague de soutien en France et en Europe où des manifestations sont prévues tout au long du week-end. À Paris aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour dire non à la guerre. Dans ce journal également, la campagne pour l'élection présidentielle et le meeting aujourd'hui de Marine Le Pen dans le Gard. Et puis en tennis, la France se qualifie pour la phase de poule de la Coupe Davis. Le temps encore un peu instable dans le sud-est, ensoleillé le plus souvent ailleurs. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
En quelques heures aujourd'hui, la ville de Mariupol, au sud-est de l'Ukraine, sur la mer d'Azov, a basculé de l'espoir d'une évacuation vers une reprise ce soir des bombardements et de l'offensive russe. Mariupol est bombardée depuis 5 jours. Le blocus continue. Ce matin, la ville devait être évacuée, mais le cessez-le-feu conclu avec la Russie n'a pas été respecté et les civils, prêts à fuir, ont dû regagner les abris. Seri Orlov est maire adjoint de Mariupol. Il s'est exprimé à la mi-journée sur la BBC.
Les bombardements se sont arrêtés un temps, mais ils ont vite repris de plus belle avec des tirs d'artillerie lourde et de mortiers sur Mariupol. Les gens étaient effrayés, mais ils ont quand même commencé à rejoindre les 3 points de rassemblement pour monter dans les bus d'évacuation. Là, un autre problème s'est posé. Les Russes nous avaient garanti que la route vers Zaporijjia serait sécurisée, mais nous avons appris que ce n'était pas le cas, que ces combats violents avaient toujours lieu autour de cette route. C'est là qu'on a compris que les Russes ne nous avaient pas dit la vérité et qu'ils allaient continuer à détruire notre ville. Alors nous avons décidé de dire aux habitants de rentrer chez eux parce que les rues n'étaient vraiment pas sûres.
Voilà, Seri Orlov, maire adjoint de Mariupol, traduction Nicolas Sabat. L'armée russe a donc repris l'offensive après le report de l'évacuation des civils de 2 villes assiégées dans le sud-est de l'Ukraine en raison de la réticence de la partie ukrainienne à influencer les nationalistes ou à prolonger le cessez-le-feu selon les termes du communiqué du ministère russe de la Défense. Au 2e jour des combats, le conflit s'est donc encore aggravé et la guerre a provoqué l'exode de près d'1,5 million de réfugiés qui fuient vers l'Europe. Des centaines de milliers de personnes sont sur les routes en Ukraine. Elles tentent d'échapper à la guerre. Les civils fuient les combats qui se déroulent essentiellement à l'est, dans le sud et à Kiev, la capitale. Sur les routes, c'est l'exode. Boris Loumagne et Laurent Maketti, nos envoyés spéciaux en Ukraine, viennent de quitter la ville-refuge de Lviv, dans l'ouest du pays, près de la Pologne. Et vous avez, Boris Loumagne, pris le chemin inverse de l'exode en direction de Kiev.
Oui, cette route vers l'ouest, c'est la route des réfugiés, des kilomètres de bouchons au milieu des champs enneigés, à bord des voitures, des femmes, des enfants, quelques hommes qui font le voyage avant de repartir combattre. Sur la route également, de nombreux barrages filtrants, des hommes armés, parfois simplement avec des fusils de chasse. Ce sont les hommes de la défense territoriale, l'armée de réserve, qui contrôlent et qui surveillent. Les quelques stations-service ouvertes sont prises d'assaut. Et puis dans les villages que les réfugiés traversent, les habitants se préparent. Sacs de sable, blocs de béton, des arbres qui ont été coupés et mis en travers des routes. Ces habitants attendent les Russes de pied ferme. Les Russes sont pourtant encore loin, mais à voir s'activer tous ces gens, on comprend qu'ils sont convaincus que les Russes finiront par arriver ici.
Boris Loumagne avec Laurent Maketti. Dans le même temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclame des avions et une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, a pu échanger aujourd'hui par visioconférence avec des élus du Congrès américain et le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer a promis au président Zelensky de débloquer une aide de 10 milliards de dollars. De son côté, à Moscou, Vladimir Poutine a mis en garde contre une éventuelle zone d'exclusion aérienne. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir.
La Russie considérerait comme co-belligérant tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine.
Oui, ça n'est pas très surprenant, mais ça a le mérite d'être clair comme mise au point, faite donc par Vladimir Poutine tout à l'heure lors d'une rencontre avec des femmes pilotes de l'armée russe. Vladimir Poutine presque menaçant qui prévient que tout pays tiers au conflit qui cherchera à empêcher ses avions d'intervenir en Ukraine sera immédiatement considéré comme prenant part au conflit armé, autrement dit comme un pays ennemi. L'OTAN n'est pas mentionné explicitement, mais l'avertissement est clair et ça rejoint finalement ce que disait ce matin le chef d'état-major de l'organisation atlantiste. Malgré l'insistance des Ukrainiens, la zone d'exclusion aérienne, c'est une ligne rouge que les alliés de Kiev ne comptent surtout pas franchir. Dans le reste de son allocution, Vladimir Poutine semble surtout vouloir ménager son opinion publique. Il assure qu'aucun conscrit russe ne combat en Ukraine, seulement des militaires de carrière. Enfin, le président russe contredit la rumeur d'une instauration imminente de la loi martiale en Russie. On le fait quand le territoire russe est attaqué par une puissance extérieure, tranche-t-il. Et jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas le cas.
Camille Magnard, merci. La troisième session des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine se tiendra donc lundi. De premières déclarations indiquaient qu'elles pouvaient se tenir ce week-end, mais un membre de la délégation ukrainienne a finalement annoncé que cette réunion de négociation et de pourparlers plutôt avec les Russes était donc prévue pour lundi. Cette guerre en Ukraine entraîne une vague de soutien avec de nouvelles manifestations prévues ce week-end dans toute l'Europe. Aujourd'hui à Paris, plusieurs milliers de personnes vêtues pour la plupart de blanc, de bleu et de jaune se sont donc réunis, place de la Bastille, place de la République et le cortège en direction de la place de la Bastille avec de nombreux slogans et des pancartes anti-Poutine, Poutine assassin ou encore stop à la guerre. D'autres rassemblements ont eu lieu aujourd'hui un peu partout en France, à Dijon, Clermont-Ferrand, Bayonne, mais également à Saint-Étienne, Nantes, Marseille ou encore à Lille. Et en Europe, des milliers de personnes ont participé à Rome à un cortège de la paix, manifestation également à Zurich en Suisse, mais aussi à Londres où la foule s'est rassemblée à Trafalgar Square, au cœur de la capitale anglaise. Reportage Richard Place.
Enveloppée dans le drapeau jaune et bleu de son pays, Olga écoute les religieux chanter, la mine grave. Cette jeune Ukrainienne vit à Londres, mais sa famille est restée là-bas. Au milieu de cette foule où l'on agite des drapeaux britanniques, mais aussi polonais ou roumains, elle se sent moins seule.
C'est déchirant, mais ça fait du bien de voir ce soutien et toutes ces nationalités réunies. L'Ukraine n'est pas seule, même si l'on ne fait pas partie de l'Union européenne. Ce rassemblement fait chaud au cœur. On voit que les gens se sentent concernés, profondément.
Nikolai reprend les slogans, le point levé, avec les amis qui l'ont accompagné. Ses origines ukrainiennes bouillonnent en lui, il met en garde.
Quand vous avez quelqu'un comme Poutine au pouvoir, il est primordial que le monde comprenne qu'il ne s'agit pas seulement de la conquête d'un nouvel État. C'est vraiment grave parce qu'il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. On doit être inquiet de savoir qui sera le prochain.
Une immense banderole blanche a été tendue en travers du grand escalier sur la place. On peut y lire « Quand le dernier soldat ukrainien tombera, Poutine viendra vous chercher ». Londres, Richard Place, France Inter.
Et en Ukraine, les artistes aussi se mobilisent. L'artiste Pavlo Makov, 64 ans, qui doit représenter l'Ukraine à la prochaine Biennale de Venise en avril, n'est bien sûr plus du tout sûr de pouvoir être présent à Venise, même si hier il a pu fuir la ville de Kharkiv bombardée. Pavlo Makov fait tout pour que son installation artistique puisse arriver en Italie pour représenter l'Ukraine. La Biennale de Venise est le plus important événement artistique au niveau mondial. Les responsables du pavillon russe ont d'ores et déjà démissionné. Isabelle Pasqui a pu joindre Pavlo Makov en Ukraine.
Pavlo Makov revendique très fort son identité ukrainienne, même s'il a étudié à l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg et que ses œuvres sont collectionnées par la prestigieuse galerie Tetriakov de Moscou. Hier, en urgence et très angoissé, il a quitté sa ville Kharkiv sous les bombes.
Chaque jour, il bombarde Kharkiv avec des missiles et le centre-ville est quasiment détruit. Et avec ma mère, âgée de 92 ans, ma femme et des amis, on a décidé de quitter la ville en voiture. On ne peut plus être en sécurité en Ukraine. Nous sommes en guerre et je ne veux pas quitter l'Ukraine.
L'œuvre que Pavlo Makov doit présenter à Venise s'intitule « La fontaine de l'épuisement », une installation avec 78 entonnoirs, une allégorie de la dévitalisation de la société après l'Union soviétique. Une œuvre conçue en 95, un bel exemple de la prescience de l'art.
J'ai l'espoir d'être à la Biennale de Venise car je représenterai mon pays et du point de vue patriotique c'est important, mais je ne peux rien promettre du tout. Mais l'œuvre d'art est partie dans le coffre d'une voiture et on va essayer parce que c'est important pour l'Ukraine d'être représentée en ce moment parce que Poutine déteste tout ce qui est européen. Ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre deux civilisations.
Et plus que jamais, cette année, la Biennale de Venise aura une dimension géopolitique avec la vision des artistes sur les naufrages du monde.
La 59e Biennale de Venise aura lieu du 23 avril au 27 novembre prochain. En France, la campagne pour l'élection présidentielle malgré la guerre. Marine Le Pen en déplacement aujourd'hui dans le Gard, au Gros du Roi ce matin, pour assister à un abrivado, un lâcher de taureau sur la plage encadré par des manadiers. Et en meeting cet après-midi à Aigues-Mortes, un discours en partie axé sur l'Ukraine pour tenter de rester audible dans un espace médiatique occupé par la guerre en Ukraine et la déclaration de candidature des Emmanuel Macron. Reportage, Élodie Forêt.
Sur une plage du Gros du Roi, une femme interpelle Marine Le Pen.
Avec tous les morts qu'on a eus pendant la pandémie, est-ce que c'est normal qu'il fait encore plus de morts?
Vous savez, voyez ma pauvre dame, c'est terrible. Hein,
la guerre dans tous les esprits, la candidate du RN l'a bien compris et en est persuadée, impossible de continuer la campagne sans s'adapter, à contre-pied d'un Éric Zemmour qui hier qualifiait la guerre de diversion au vrai problème de la France. Des propos que Marine Le Pen dénonce.
Je ne les comprends même pas. La guerre en Ukraine, au contraire, fait émerger des sujets qui sont en réalité des sujets essentiels. Le sujet de notre indépendance alimentaire, le sujet de notre indépendance énergétique. Donc au contraire, presque cette guerre met en lumière des sujets qui sont fondamentaux.
Et ce sont donc ces sujets que Marine Le Pen a choisi cet après-midi d'aborder en première partie de meeting avant de se livrer face à 800 militants réceptifs à un pamphlet anti-Macron l'accusant de refuser le débat.
À 4 semaines de l'élection, il a daigné de l'Olympe envoyer un message à la Terre. Un message qui tombe d'en haut, comme si le président se dispensait par avance de l'échange, de la discussion, de la contradiction.
Tentative d'attirer, malgré le contexte, le président candidat dans l'arène, ne pas laisser la guerre annihiler la campagne.
Élodie Forêt, à Aigues-Mortes, dans le Gard. La grande collecte des Restos du Cœur 2022 a démarré hier. Elle se poursuit jusqu'à demain soir dimanche. Les bénévoles de l'association sont présents dans des centaines de magasins pour récupérer des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Les 70 000 bénévoles des Restos du Cœur ont pour objectif cette année de battre le record de 7 800 tonnes de denrées collectées l'année dernière et dépasser cette année les 9 000 tonnes. Un mot de sport avec la Coupe Davis de tennis. Mission accomplie pour l'équipe de France victorieuse de l'Équateur. Après les victoires en simple d'Arthur Rinderkech et Adrian Manarino, l'équipe de France a validé sa qualification pour la phase de poule de la prochaine Coupe Davis, avec en double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut qui ont battu les Équatoriens Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo en 2-7, 6-3, 7-5. Prochaine étape en septembre pour la phase de groupe, puis en novembre pour le tableau à élimination directe. Et cet après-midi, ce qui est important, c'est le résultat. Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France de tennis.
Résultat idéal. Je crois qu'on a vraiment respecté nos adversaires. On s'est bien préparé pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et les gars ont assuré tout le week-end avec le simple et le double. Ils ont répondu présent. Ils étaient très motivés. On a senti beaucoup de fraîcheur chez les jeunes. Également chez les plus expérimentés. Ils étaient ravis de retrouver ce groupe, de retrouver une rencontre à domicile avec le public français. Et ça s'est ressenti encore plus aujourd'hui pendant ce double-là avec une super ambiance avec les gars. Donc voilà, on est ravis de s'imposer et d'être qualifiés pour le mois de septembre.
Sébastien Grosjean avec Fabrice Abgral.